Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Pobo Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Alinda Ouedraogo.
Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce mardi, inondation à la mine de Percois. Les 8 ouvriers n'ont pas été retrouvés dans la seconde chambre de refuge. Les recherches se poursuivent. Et puis à l'ouest du Burkina, des orpailleurs en colère ont incendié des équipements de la mine Houndé Gold Opération. Ils revendiquent une partie des lieux. Hors de chez nous, le Togo a ouvert ses frontières terrestres ce mardi après plus de 2 ans, ce à cause de l'épidémie de coronavirus. Et puis l'invité de la rédaction est le professeur Lucie Nébier, cardiologue. Avec elle, il sera question de santé, précisément de l'hypertension artérielle. Voilà pour vos titres. Bienvenue pour ce journal. Inondation à la mine de Percois, nous sommes au 32e jour. Le gouvernement a annoncé cet après-midi que la seconde chambre de refuge est vide et que les opérations de recherche se poursuivent. Je vous propose un extrait du ministre Jean-Alphonse Sommé, ministre des Mines.
Lorsque on a constaté que la chambre de refuge était nue, complètement, on avait dénoyé, nous sommes repartis avec toute l'équipe des secouristes, les avant-gardistes et puis tous ceux qui pouvaient intervenir, de même que les membres de famille au sein de la fosse là et au pied donc de la chambre de refuge. La chambre de refuge donc a été ouverte devant nous, je vous l'affirme, la chambre de refuge a été ouverte devant nous et bien, l'homme propose et Dieu dispose. Donc malgré toutes nos incantations, toutes nos prières, nous avons trouvé une chambre de refuge vide de tout être humain. C'est une information cruelle.
À Percois, cette fois-ci, nous recevons en direct notre reporter Sabuna Ouedraogo. Sabuna Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir.
Alors dites-nous, quelle a été la réaction des familles des victimes?
Il faut dire que, comme il fallait s'y attendre, les familles des victimes ont accueilli cette information avec beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Dans la salle, les cris fusaient, et même après l'entretien, les familles, beaucoup, surtout les femmes en tout cas, ont continué à pleurer, ont été consolées par d'autres personnes, même le ministre des Mines et Bassolam Abazier, le ministre de la Fonction publique, sont sortis consoler les femmes, essayer de les consoler en tout cas. Mais disons que la douleur était grande parce que tout simplement ces familles avaient toujours l'espoir qu'on retrouverait leurs proches dans cette fameuse et dernière chance, comme on le disait, la chambre de refuge en tout cas, où on espérait retrouver les 8 mineurs, mais malheureusement personne n'a été trouvé, et donc les recherches vont se poursuivre parce que il faudrait retrouver la troisième chambre qui elle dispose de seulement de 6 places, et en plus de ça, sachant que les chambres de refuge ne sont pas alimentées en nourriture, ne sont pas fournies en nourriture. Après 32 jours déjà, c'est compliqué. Et pour atteindre la troisième chambre, il faut compter encore au moins une semaine, voire jusqu'à 3 semaines en tout cas, pour pouvoir atteindre cette dernière chambre de refuge. Mais le ministre a tenu à dire qu'il y a encore de l'espoir. Il a demandé aux familles de garder espoir parce que un miracle peut survenir, le miracle peut arriver pour qu'on trouve en tout cas les 8 disparus. Mais dans la réalité, disons que ça sera quand même difficile de trouver des personnes vivantes après donc cette période d'inondation et qui a eu lieu depuis le 16 avril dernier à l'INDA.
Sabuna Ouedraogo, merci pour votre compte rendu. On vous reviendra dans nos prochaines éditions. On se rend à présent à la mine de Houndé, à l'ouest du Burkina. Des orpailleurs en colère ont instrumentalisé les populations et ont incendié ce mardi des installations de la mine aurifère Undigold Opération du groupe canadien Endeavour Mining, une mine d'or industrielle située à Houndé dans la province du Tuy. Selon nos sources, les manifestants s'en sont pris à la mine à cause de leur mécontentement envers la société, laquelle les a sonnés de quitter les lieux. En effet, les orpailleurs auraient été surpris dans le périmètre d'exploitation de la mine et un délai de 72 heures leur avait été donné pour quitter les lieux. Cependant, les orpailleurs affirment avoir été les premiers à s'installer sur le site et ils accusent la société minière de s'en être accaparée. C'est ainsi que mardi, ces orpailleurs ont mobilisé des populations pour s'en prendre au bien de la mine. Insécurité au Burkina Faso, les écritures en arabe découvertes hier dans certains établissements privés et publics de la ville de Panfora sont en réalité un appel à la fermeture des établissements non islamiques et il s'agirait de menaces contre le système éducatif burkinabé selon le ministère en charge de l'éducation nationale. Tout en condamnant cette nouvelle tentative d'attaque contre l'école burkinabé, le ministère de l'éducation nationale rassure les populations et l'ensemble des acteurs du système éducatif que les autorités administratives régionales et centrales suivent attentivement l'évolution de la situation sécuritaire, peut-on lire dans le communiqué du ministère qui appelle les populations à garder le calme et à ne pas céder à la panique face à ces actes d'intimidation. Et puis, situation sécuritaire oblige, le Conseil national de la jeunesse demande aux autorités burkinabées d'accorder une attention particulière à la situation sécuritaire, humanitaire, socio-professionnelle de la jeunesse. Cet échange entre le Conseil national de la jeunesse et les professionnels de l'information s'est tenu le 14 mai dernier à Ouagadougou. Je vous propose le compte-rendu de Mouni Tamboura et Jean-Paul Ouedraogo.
La situation sécuritaire délétère qui existe au Burkina Faso préoccupe le Conseil national de la jeunesse qui souhaite apporter son soutien au FDS, au VDP qui se battent quotidiennement pour la mère patrie. Le Conseil a également exhorté les autorités en place à revoir les stratégies de lutte contre le terrorisme et à mieux situer les forces vives de la nation et le peuple sous les objectifs de la transition. Moumouni Diala est le président du Conseil national de la jeunesse.
Que nos camarades qui sont au front, que ce soit FDS ou VDP, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bataille. La bataille pour la libération de notre pays. Et tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment on pourrait libérer le Burkina Faso. Et je pense que chacun pris individuellement a cette bonne intention et à cet objectif, comment je contribue pour libérer donc le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on constate que la situation n'a pas changé où elle se dégrade.
Les conditions de vie des étudiants des universités publiques étaient également l'un des grands axes de la déclaration. Le Conseil des jeunes demande au gouvernement de revoir leurs conditions, en particulier la question du FONER, qui a fait tant de bruit ces derniers temps. Moumouni Diala est le président du Conseil national de la jeunesse.
Nous attendons à ce que la situation des étudiants soit analysée rapidement et qu'une solution soit trouvée. Parce que vous savez, la question du FONER est une subsistance pour les étudiants. Aujourd'hui, grignoter sur le FONER des étudiants revient donc à dire même qu'il n'y a plus d'universités ou il n'y a plus d'étudiants au Burkina Faso, au regard du fait que la plupart de ceux qui sont des étudiants sont des fils donc du paysan lambda. Parce que ceux qui ont les moyens d'ailleurs n'envoient pas leurs enfants. Donc au niveau des universités publiques.
Le Conseil national de la jeunesse du Burkina, par la voix de son président, rassure quant à la disponibilité de sa structure à contribuer au développement économique et social des jeunes. Il a également notifié son engagement à travailler à l'épanouissement des jeunes au sein du Conseil en assurant les pleines implications et participation aux instances décisionnelles.
On parle à présent de lutte contre la drogue en milieu scolaire. La caravane Oskimo Tour, dénommée Jeunes Propres sans drogue, en collaboration avec l'association Lidi, a organisé hier lundi une campagne de sensibilisation sur la drogue au lycée privé Lisa à Saba. Cette initiative de l'artiste Issouf Savadgo, qui est à sa 15e édition, vise à sensibiliser et informer les élèves sur les effets néfastes qu'engendre la consommation de la drogue. Je vous propose le compte-rendu de Laetitia Bayala et Somena Traoré avec la voix de Gilles Lasda.
Comme chaque année, l'artiste-chanteur Oskimo lance la campagne « Jeune propre sans drogue ». C'est le défi que se donne la caravane Oskimo Tour dans sa lutte contre la drogue en milieu scolaire. Cette initiative a pour but d'aider les jeunes à éviter ou rompre définitivement avec les stupéfiants, source de maux sociaux. Pour cette étape de la 15e édition, c'est le lycée privé Lisa de Saba qui accueille l'événement. Événement jugé salutaire par plus d'un. Anaïs Adonaba, élève en classe de première. Oumou Fane Berthe, conseillère principale d'éducation au lycée Lisa.
Je retiens que la consommation de drogue n'est pas bonne pour la santé. Je retiens aussi que quand on bosse, il n'est pas bon de prendre de la drogue, car ça peut causer des problèmes au système nerveux. En tant qu'élève, là, en tout cas, je conseille toujours d'éviter ça, surtout pour les études, pour bosser là. C'est mieux de se mettre au sérieux, puis bosser sa tête, et puis ça va aller.
Vraiment, ça nous a fait plaisir d'accueillir la caravane au studio pour 2022. En tant qu'un établissement où nous avons au moins près de 1000 élèves, vraiment, ça nous apporte beaucoup de bonheur, surtout la sensibilisation par rapport à la drogue, l'alcool et les excitants.
Cette caravane qui doit sillonner plusieurs villes du Burkina connaît un bilan assez satisfaisant depuis sa lancée. Dans ce combat, Youssouf Sawadogo alias Oskimo est épaulé par l'association Lidi qui œuvre également dans la lutte contre la drogue. Le tandem s'est formé tout naturellement. Youssouf Sawadogo dit Oskimo, promoteur de la caravane Oskimo Tour.
Le bilan il est positif parce que ma rencontre avec Lidi, association Lidi, si on n'avait pas créé Oskimo Tour, je ne pense pas qu'il peut les croiser. Donc Dieu merci, nos chemins sont croisés, ils sont dans le même combat. Et au début j'étais un peu seul, il y a 10 ans derrière. Mais aujourd'hui avec ces associations, Lidi, ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. L'année passée, on avait déjà mené les activités ensemble. Cette année, je crois avant-hier, le samedi, on était dans un lycée avec Lidi. Aujourd'hui, on est ici avec Oskimo Tour.
À travers cette halte de Samba, la sensibilisation s'est articulée autour d'une communication faite par Ousmane Konda, chef de service de l'unité de prise en charge des enfants et jeunes toxicomanes. Une unité de prise en charge mise en place depuis 2019. Elle a, à ce jour, pris en charge plus de 200 cas de toxicomanes en son sein.
Hors de chez nous au Tchad, des policiers ont interpellé le porte-parole de Wakitama ce mardi. En effet, samedi dernier, alors que la coalition Wakitama a appelé à marcher contre la politique française au Tchad, elle a été rejointe par des commerçants, mais surtout par des élèves qui n'ont pas respecté l'itinéraire de la marche. Ils ont fini par attaquer plusieurs stations d'essence portant la marque du pétrolier français Total. D'autres villes de province ont aussi rejoint le mouvement qui est hors de contrôle depuis samedi. Au cours d'une réunion de sécurité tenue hier, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, a appelé les forces de sécurité et les magistrats à faire preuve de fermeté envers les casseurs. Et puis au Togo, le pays a rouvert mardi ses frontières terrestres avec le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso, fermées depuis plus de 2 ans, ce à cause de l'épidémie de coronavirus, annonce faite par le gouvernement. Les frontières terrestres sont rouvertes sur l'ensemble du territoire national à compter du mardi 17 mai à 0h, souligne le gouvernement dans un communiqué faisant état d'un ralentissement de la propagation du Covid-19. La circulation est donc libre pour les voyageurs sous réserve de la présentation d'une preuve de vaccination, précise le gouvernement togolais. Toutefois, les autorités togolaises invitent la population au maintien de la vigilance, au respect des mesures barrières et à l'adhésion à la campagne vaccinale en cours.
La revue de presse.
Les quotidiens du jour se prononcent sur la lutte contre le terrorisme au Burkina et dans la sous-région. Au plan sous-régional, c'est le retrait du Mali, du G5 Sahel et de la force conjointe qui cristallise l'attention des éditorialistes. La revue de presse de ce mardi est signée Brigitte Yoda.
Crise sécuritaire au Burkina pour commencer. Pour l'Express du Faso, le langage des armes n'est pas forcément le mieux adapté dans le combat qu'il qualifie de rivalité entre ceux qui disent combattre pour la cause de Dieu et ceux qui luttent pour leur patrie. Estimant que les terroristes ont compris que les Burkinabés sont plus que jamais divisés, que ce soit dans les milieux politiques, de la société civile, des syndicats et même de l'administration, notre confrère appelle les Burkinabés à l'introspection car, dit-il, les solutions à cette crise se trouvent en eux-mêmes. Et si on négociait une trêve, suggère le journal Bobolais, pour qui un sursaut patriotique, entre parenthèses hypothétique, des Burkinabés pourrait permettre de renverser la situation. Attention à l'auto-victimisation, s'exclame le pays à propos du retrait du Mali du G5 Sahel. À force de toujours s'estimer lésé et de dénoncer systématiquement les accords bilatéraux et multilatéraux, le risque est grand pour le Mali de s'isoler dans ce combat contre l'hydre, commente le journal des 1200 logements. Utilisant le même langage que les autorités maliennes avaient tenu lorsque Barkhane a annoncé son retrait progressif du Mali, l'Express du Faso pense aussi que le Mali abandonne le G5 Sahel en plein vol, car le retrait du Mali du G5 va fragiliser la lutte commune engagée contre les groupes armés terroristes. Et maintenant, on fait quoi ? Questionne aujourd'hui au Faso pour qui il faut que les quatre pays restants convoque un sommet extraordinaire pour jauger l'avenir. Selon le pays, il est temps de penser à une entité beaucoup plus large au moment où, après le Sahel, les pays du littoral sont devenus un objectif pour les terroristes. Terminons par l'opération de sauvetage des 8 mineurs à la mine de Perkoa. Après un mois de course contre la montre, les sauveteurs ont pu finalement atteindre le bunker souterrain dans la soirée d'hier. Mais ils n'ont pas pu voir l'intérieur à travers la vitre à cause de l'épaisse couche de boue qui ensevelit la forteresse de tous les espoirs, relate l'observateur Palga, pour qui c'est toute la nation qui retient son souffle. Le miracle de Perkoa aura-t-il lieu ? Se demande le doyen des quotidiens. En attendant, la question reste posée.
C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci à vous de l'avoir suivi.
Radio Omega, l'info en direct. L'invité du jour. L'invité du jour.
Professeur Lucine Evier, bonjour.
Bonjour à Radio Omega.
L'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est ?
Il s'agit d'une élévation de la pression artérielle, donc la pression dans les artères. Communément, nous l'appelons HTA. Pour l'évaluer, il faut donc utiliser le tensiomètre. Ça permet de prendre les deux chiffres, à savoir le premier chiffre qui est la tension artérielle systolique et la tension artérielle diastolique.
Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle ?
Il y a plusieurs causes. Il y a d'abord les causes héréditaires, où on hérite d'un des parents, c'est le plus fréquent. Et habituellement, lorsqu'on fait un bilan, on ne trouve pas grand-chose. Maintenant, il y a les autres causes qui se rajoutent, qui peuvent être des causes toxiques, des causes de rétrécissement de certaines artères des reins, d'autres causes éventuellement d'utilisation intempestive de certains produits. Donc les causes qu'on peut éradiquer ou on peut essayer de traiter, ils font que 5, maximum à 10%. Et là, il faut rechercher les causes rénales, surrénaliennes. Il faut éventuellement chercher une intoxication par la consommation excessive de certaines friandises d'autres aliments. Maintenant, les 90 à 95%, c'est les causes héréditaires et que l'on ne peut pas donc traiter. C'est-à-dire le traitement reste permanent et c'est ce que vous n'aimez pas entendre lorsqu'on dit que le traitement est à vie. Mais malheureusement, quand on n'a pas retrouvé une cause, on ne peut pas arrêter le traitement, donc le traitement reste permanent à vie.
On parle d'hypertension et d'hypotension artérielle. Comment ça se passe concrètement ?
On revient toujours à nos normes. On dit que quelqu'un est hypertendu lorsqu'on atteint le premier chiffre déjà, 140, c'est-à-dire 14 cm de mercure ou 140 mm de mercure. Et lorsque le deuxième chiffre aussi, parce qu'on peut avoir juste une hypertension du deuxième chiffre, lorsque l'on dépasse 90 mm de mercure ou 9 cm de mercure. Donc 14-9. Ce que communément les gens utilisent, ou 140-90, lorsqu'on dépasse ces normes, on devient hypertendu. L'hypotension artérielle, par contre, c'est le contraire. C'est des gens qui ont des tensions très basses, donc souvent inférieures à 10, inférieures à 7 ou 8 de l'autre côté, mais c'est surtout la systolique dans l'hypotension artérielle qui leur donne des malaises. Et là, nous ne considérons pas vraiment comme des maladies, parce qu'une hypotension artérielle, c'est vrai, elle baisse le tonus, elle fatigue, mais ce n'est pas une vraie pathologie que nous traitons couramment.
la consommation de certains aliments comme les bouillons favorise-t-elle l'hypertension?
Je pense que ça a été un gros débat, mais ce n'est pas tellement le contenu, parce que le contenu, parfois, c'est plus ou moins bien fait selon les industries, mais c'est surtout la concentration en sel. En Afrique, on voit qu'on met les bouillons, on met le sel, on met tout. Et en fait, c'est la concentration du sel qui pose problème. Alors que comme eux, ils sont déjà concentrés en sel, il faut que les femmes fassent attention ou bien diminuer la quantité de sel.
Et quelles sont les conséquences de l'hypertension?
On a plusieurs conséquences. Les plus graves, c'est d'abord l'accident vasculaire cérébral. La tension monte, la personne se paralyse d'un côté, ça c'est vraiment l'AVC classique. Nous avons deuxièmement l'insuffisance cardiaque, parce qu'à force de pousser, après le cœur est fatigué et il fait une insuffisance cardiaque. Troisièmement, il peut atteindre les yeux, on peut avoir brusquement une cécité due à une pression artérielle trop élevée. Quatrièmement, on a les insuffisances rénaux, ça c'est le plus fréquent.
Le 17 mai, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hypertension. En quoi cette journée mondiale peut aider à lutter contre la maladie?
Toujours sensibiliser les gens. Il faut qu'ils se dépistent. Il faut qu'ils prennent leur tension. Et le pire, c'est de ne pas prendre la tension, savoir que c'est élevé et puis se cacher. Ou bien se dire qu'on ne prend pas les produits. Mais surtout, accepter de se faire traiter lorsqu'on dit que la tension est élevée. Il faut que les gens acceptent. Voilà. Donc cette campagne-là, vraiment, c'est de faire mieux connaître l'hypertension.
Comment se fait le traitement?
Le traitement, d'abord, il faut faire le bilan pour voir, en dehors de l'atteinte hypertension qui est élevée, est-ce qu'il y a déjà des complications? C'est pour ça que vous nous verrez en premier bilan où on regarde un peu partout, on fait les fonds d'œil, on fait les échos des reins, on fait les échos cardiaques. C'est pour déjà cerner la maladie et ses complications déjà. Alors, dès qu'on a déjà fini ça, on essaie de voir maintenant si c'est une hypertension qui vient juste sans aucune complication, juste un comprimé. Maintenant, il y a tellement de produits, on peut les équilibrer comme on veut, on peut les mélanger. Maintenant, de plus en plus, il y a des mélanges fixes qu'on peut mettre de façon initiale et surveiller progressivement la pression artérielle.
Des conseils pour les malades?
Adhérez au traitement. Si ça ne vous convient pas, qu'on puisse changer. Dépistez-vous. Vous avez des céphalées, des vertiges, vous avez des visions un peu en mouche volante là, vous avez fait un malaise, prenez votre tension. Lorsqu'elle est élevée, consultez votre cardiologue. En passant régulièrement chez son médecin, en avalant régulièrement son traitement. Lorsqu'il y a des effets secondaires, vous approchez les médecins pour qu'ils changent votre traitement ou diminuent la dose. Mais n'essayez pas d'arrêter tout seul ou bien n'essayez pas aussi de prendre le médicament du voisin parce qu'apparemment le voisin, ça va mieux. On a tellement de méthodes maintenant avec des appareils sur 24 heures qui permettent de voir si réellement vous êtes hypertendu ou pas. Et si on dépiste ça réellement, on met un traitement en place où on vous suit et lorsque c'est tout est cool, là, c'est une maximum deux fois dans l'année qu'on vous revoit. C'est un contrôle, sauf s'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, tous ceux qui sont bien stables, ils passent nous voir tous les 6 mois. Pas plus de 2 fois dans l'année. Essayez en plus aussi d'ajouter l'hygiène alimentaire. L'histoire d'alcool excessif, de tabac excessif, de manger très salé de façon excessive. Tout ça, c'est bien. Mais à un certain âge, il faut qu'on arrive à maîtriser notre hygiène de vie. C'est ça qui va nous amener loin.
Le professeur Lucie Nébier, je vous remercie.
Merci Radio Omega.
C'était l'invité de la rédaction.